Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Ndadi Kabala.
Le ministre de la Justice, Guillaume Geffa, ordonne des poursuites contre les auteurs des injures visant les chefs de l'État sur les réseaux sociaux. Jean-Claude Katende, quant à lui, condamne aussi les injures à l'encontre du chef de l'État, mais qualifie la décision du garde des Sceaux d'une justice à deux vitesses. Nous parlerons ensuite dans ce journal de la 9e commission permanente mixte RDC-Ouganda, où les deux pays ont convenu de dynamiser les échanges commerciaux, les projets d'infrastructure, l'énergie ainsi que la gestion des frontières. Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé sur plusieurs sujets politiques majeurs, notamment la question d'un possible troisième mandat et la fin de la guerre comme condition pour la tenue des prochaines élections. Cette prise de position du chef de l'État était au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur la radio de la pays. Comme dit tout à l'heure, nous ouvrons ce journal avec cette mise en garde du ministre de la Justice face aux propos jugés outrageants, injurieux, diffamatoires et menaçants à l'encontre du président Félix Tshisekedi sur les réseaux sociaux. Leurs auteurs seront exposés aux poursuites judiciaires, annonce les patrons de la justice congolaise. En tout cas, c'est ce qu'a ordonné hier lundi 11 mai le ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Geffa. Cette mesure intervient donc à la suite de la conférence de presse du chef de l'État du 6 mai dernier. Ce n'est pas tout. Le ministre rappelle que le président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution, de l'unité nationale et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, incarne une institution dont l'intégrité, la dignité et l'honneur bénéficient d'une protection juridique renforcée, peut-on lire dans ce document. Le point avec Benjamin Moudoumbi.
Dans le communiqué, les ministres rappellent que le président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution, de l'unité nationale et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, incarne une institution dont l'intégrité, la dignité et l'honneur bénéficient d'une protection juridique renforcée. Les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux a donné injonction aux autorités judiciaires compétentes de procéder à la mise en mouvement immédiate et systémique de l'action publique afin de procéder sans délai, notamment à l'identification technique, numérique et judiciaire des auteurs des publications incriminées, y compris ceux opérant depuis l'étranger, ainsi qu'à leur interpellation conformément aux procédures légales en vigueur. C'est en conformité avec les obligations constitutionnelles, légales et internationales en matière de protection des institutions et de lutte contre les infractions commises à travers les numériques. Les ministres mettent enfin en garde contre toute tentative d'instrumentalisation des figures publiques à des fonds d'incitation à la haine, des provocations à la violence ou d'atteinte à l'ordre public, laquelle fera l'objet de poursuites judiciaires conformément à la loi. Rappelons qu'à ce jour, plusieurs cas diffamatoires sont enregistrés ici comme ailleurs.
Pour sa part, le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, Jean-Claude Katende, condamne à son tour les insultes et attaques verbales contre les chefs de l'État, mais dénonce cependant ce qu'il considère comme une justice à deux vitesses. Pour cet acteur de la société civile, les mesures annoncées par le ministre de la Justice semblent viser principalement les opposants et certaines voix critiques, alors que d'autres citoyens victimes d'injures ou de diffamations ne bénéficient pas de la même protection. Jean-Claude Katende appelle ainsi à une application équitable de la loi pour tous les Congolais. On écoute Jean-Claude Katende, joint par Grace Hamzati.
Qu'est-ce qu'on va faire de ceux-là à la longueur de journée? Insulte les autorités religieuses, insulte les membres de l'opposition ou insulte d'autres citoyens sans que la justice ne puisse bouger d'un seul iota. Même si je sais que les propos tenus contre le président de la République, les propos injuriés, les propos diffamatoires contre les présidents de la République sont des propos extrêmement graves qu'on ne peut pas accepter, quel que soit ce qu'on peut évoquer, démocratie, liberté d'expression. Le président de la République, en tant qu'institution et en tant que personne, a droit au respect et aux honneurs de toute la nation, quelles que soient nos divergences des vues, nous ne pouvons pas nous permettre de nous insulter les uns les autres ou de nous manquer du respect. Pour moi, je trouve que le communiqué est orienté uniquement contre ceux qui disent des choses ou qui diraient des choses contre le président de la République, alors que les ministres devraient s'exprimer avec fermeté à l'égard de tout le monde, parce que notre nation va petit à petit vers un domaine où personne ne respecte personne, personne ne respecte la loi, et ça, c'est dangereux.
L'actualité, c'est aussi la RDC et l'Ouganda qui ont convenu d'accélérer leur coopération économique, réunie pendant 3 jours à Kampala. Dans le cadre de la 9e commission permanente mixte, les deux pays ont convenu de dynamiser les échanges commerciaux, les projets d'infrastructure, l'énergie ainsi que la gestion des frontières. Les détails avec Martial Papimukeba.
Parmi les principales avancées figure la signature des mémorandums d'attente sur la connectivité ferroviaire à écartement standard ainsi que des accords techniques pour la mise en place des postes frontaliers à guichet unique entre Busanza côté ougandais et Bunagana côté congolais ainsi qu'entre Pondwe en Ouganda et Kasindi en RDC. Les deux gouvernements ont également adopté une feuille de route conjointe pour le projet hydroélectrique des Ruzizi 3 et l'interconnexion électrique avec la ville de Goma au Nord Kivu. Autre engagement annoncé, la mise en place des mécanismes de certification des minerais exempts des conflits ainsi que l'opérationnalisation d'un comité chargé de la protection de l'écosystème du parc national de Virunga. Kinshasa et Kampala se sont fixés l'objectif de porter leurs échanges commerciaux à 1,5 milliard de dollars américains d'ici 2028. Au moins 14 ministres et plusieurs hauts cadres de l'administration publique congolaise ont pris part à cette session.
Signalons par ailleurs que le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé hier lundi à Kampala, où il doit participer à ce mardi à la cérémonie d'investiture du président ougandais Yoweri Museveni pour son 7e mandat présidentiel. Les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête pour discuter de plusieurs questions, notamment celles liées à la sécurité. Depuis environ 4 ans, les armées congolaises FARDC et ougandaises UPDF mènent des opérations conjointes contre les rebelles des ADF d'origine ougandaise dans les territoires de Beni et Lubero au Nord Kivu ainsi qu'en Ituri. Parlons à présent de la lutte contre l'insécurité sur les lacs Albert en Ituri. La force navale des forces armées de la République démocratique du Congo a lancé hier lundi les patrouilles pour lutter contre l'insécurité sur les lacs Albert. Selon son commandant, basé à Kasseni, l'objectif est de mettre fin aux tracasseries dont des pêcheurs se disent victimes de la part des hommes armés non identifiés. Marcel Kizabiamungu nous en dit plus.
Des jours comme des nuits, de nombreux pêcheurs affirment être victimes des tracasseries orchestrées par des hommes armés non identifiés sur le lac Albert. Au cours d'une réunion du comité local de sécurité du secteur des Baïmansid, à laquelle ont pris part des acteurs du transport lacustre le week-end dernier à Kasseni, il a été décidé d'intensifier les patrouilles sur les eaux du lac Albert. Selon les commandants de la base navale du littoral du lac Albert, l'objectif de cette opération qui va durer 1 mois et de mettre fin au vol des biens des pêcheurs. Le colonel Daniel Ekofoshiko encourage les pêcheurs et d'autres usagers des eaux du lac d'alerter les services de sécurité, surtout cas d'insécurité. Le président des transporteurs au lac Albert parle, lui, d'un signal fort qui va, ajoute-t-il, améliorer les conditions de travail des pêcheurs et des transporteurs qui souffrent de cette insécurité depuis longtemps sur le lac Bounia. Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Toujours dans la recherche d'une paix durable et pour la partie est de la RDC, la Fédération provinciale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, elle, lance un appel à l'unité de toutes les forces politiques et sociales. Plus concrètement, ce parti politique membre de l'Union sacrée exhorte les autorités à rétablir l'autorité de l'État dans la région. Ce cri d'alarme a été lancé hier lundi à l'issue d'une rencontre des membres fédéraux de l'FDC tenue à Beni au Nord Kivu. Il était notamment question d'évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RDC. On écoute le président fédéral de l'FDC au Nord Kivu, Dimanche Mboussa, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
La première chose, c'est accompagner les chefs de l'État à finir une fois pour toutes cette guerre qui nous a été imposée par mon voisin. Tout ce que nous sommes en train de subir comme humiliation, la guerre, les insécurités, les désordres institutionnels, il faut que les chefs de l'État mettent fin à tout cela. Parce que notre pays est en train de faire face à des grands défis. Et donc, le chef de l'État a besoin d'un accompagnement de tous les partis politiques qui font membres de l'Union sacrée. Deux, nous voulons ce que les chefs de l'État rétablissent de l'ordre dans le pays. Ce que nous sommes en train de subir, ce que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas ce que nous devrions être, nous, comme République démocratique du Congo. Et que donc, nous voulons accompagner les chefs de l'État pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la nation. Nous appelons tous les camarades de signer derrière la prise de position du président du comité de crise, Monsieur Otto Bahizi Clovis, pour rétablir de l'ordre. Nous appelons les gens à se mettre sur une même table.
Et puis, examen d'État 2026 avec ces chiffres inquiétants en Ituri. Tenez, un taux de déperdition de 23% des élèves finalistes a été enregistré dans la sous-division de Djougou 1 lors des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2026. La sous-division d'Irumu 3 vient en deuxième position avec 10% des déperditions. Ces chiffres ont été rendus publics ce lundi par le directeur de la province éducationnelle Ituri 1 qui attribue cette situation à l'insécurité persistante dans plusieurs zones. Pour les élèves absents à ces épreuves, il affirme attendre les orientations de sa hiérarchie. Isaac Remoyope, reportage.
Les épreuves hors session de l'examen d'État se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 1. Selon les autorités scolaires, les 55 centres prévus ont été opérationnels dans les différentes entités concernées. Cependant, le directeur provincial de l'éducation déplore un important taux de déperdition dans certaines sous-divisions. Djougou 1 enregistre 23% d'absence parmi les finalistes, suivi d'Irumu 3 avec 10%, puis Irumu 1 avec 9%. Pour certains parents d'élèves, il revient au gouvernement garant de la sécurité des citoyens, d'organiser une session spéciale de rattrapage pour les finalistes qui n'ont pas pu participer aux épreuves à cause de l'insécurité. De son côté, le directeur provincial indique que ces statistiques ont déjà été transmises à la hiérarchie qui devra décider du sort réservé à ses élèves. Yvon Mouké à Boisséi.
Pour l'ensemble de la province, nous avons connu 6% des déperditions pendant les épreuves ici hors session. Nous allons nous adresser à la hiérarchie, voir dans quelle mesure on peut, n'est-ce pas, ou ne pas organiser cette épreuve-là. D'ailleurs, toutes ces statistiques sont déjà communiqués au niveau national et on va peut-être faire un petit rapport à la fin pour leur dire qu'il y a telle situation et à la hiérarchie de voir si on peut penser à accorder une épreuve.
Cette autorité scolaire encourage néanmoins les élèves finalistes ayant fui les sécurités à participer aux examens préliminaires ainsi qu'à la session ordinaire de cette édition dans les centres les plus proches de leur lieu de refuge. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Qu'est-ce qui se passe au bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema? En tout cas, tous les 5 membres de ce bureau sont visés par des pétitions. Des pétitions déposées hier lundi à Kindu. Motif, il est reproché au président de ce bureau d'être incompétent, tandis que les grèves retenues contre les 4 autres membres ne sont pas dévoilées au public. Florence Kizalunga pour plus de précisions.
Ces pétitions contre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema sont introduites 3 jours seulement après la confusion observée lors du vote de l'interpellation du gouverneur, une plénière qui s'est clôturée sous une forte agitation. Ces pétitions visent les présidents, les vice-présidents, les rapporteurs, le rapporteur adjoint ainsi que les questeurs. Selon des sources parlementaires, ces documents ont été formellement déposés au bureau de l'hémicycle provincial dans la matinée. Ces actions interviennent dans un climat déjà tendu car vendredi dernier, les votes à main levée sur l'interpellation du gouverneur Moussa Kabankoubi avaient divisé les députés. Les rapporteurs avaient publiquement contredit les décomptes annoncés par le président de l'organe délibérant, alimentant la crise de confiance. Étant donné que tous les membres sont concernés, un bureau d'âge sera constitué et mis en place pour examiner la dite question. Selon les informations en notre possession, déjà 8 députés sur les 9 qui sont pour l'interpellation du gouverneur sont partis à Kinshasa. De l'autre côté, l'interpellation a été remise au gouverneur sans qu'il y ait plénière, ce qui pousse certains analystes à dire que la crise institutionnelle au Maniema entre ainsi dans une nouvelle phase. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, des enfants exposés au risque d'être emportés par les eaux de la rivière Toua. Cela se passe dans la région de Beni au Nord Kivu. Face à ces risques, la protection civile dans la région attire l'attention de tous pour la sécurité des enfants et des élèves en cette période de forte pluie. Cette mise en garde intervient justement après le décès d'un élève survenu la semaine dernière et emporté par les eaux de la rivière Toua. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Les coordonnateurs de la protection civile pour la région de Beni appellent les parents et les enseignants à plus de vigilance. Ils demandent également aux autorités de construire des ponts sur les rivières qui traversent la ville de Beni afin de prévenir de tels accidents. Jean-Paul Kapitula est au micro de Marc Marofimbo.
La communauté doit prendre conscience parce qu'à ce moment ici, où nous sommes en train d'observer une augmentation de la pluviométrie, il faut que les parents prennent des responsabilités. S'il pleut, avant que les enfants n'aillent à l'école, ils doivent retenir les enfants à la maison. Et s'il pleut, pendant que les enfants sont à l'école, les enseignants ont la responsabilité de demander chaque enfant. En venant à l'école, ils ne traversent pas de rivière. Est-ce qu'il n'y a pas de pot ébranlé? Est-ce qu'ils ne traversent pas dans la rivière? Et qu'ils doivent prendre des dispositions à sécuriser ces enfants. Surtout les enfants des primaires, ils doivent se faire accompagner par leurs grands frères. Et ce qui est malheureusement choquant, la ville est traversée par plusieurs rivières. Et ça constitue un danger permanent. Donc, il est vraiment un besoin nécessaire que la ville augmente des ponts autour des rivières parce que la plupart des quartiers ont des difficultés de traverser de l'autre côté par le fait qu'il n'y a pas de pont. L'État doit nous construire des ponts parce que nous avons des impôts et taxes que nous payons pour lesquels il y a des redevances qui doivent venir pour construire des infrastructures d'intérêt communautaire comme des ponts, comme des routes.
Actualité internationale.
Au Mali, les djihadistes du NIM liés à Al-Qaïda maintiennent leur blocus sur Bamako. Au moins une dizaine d'autocars ont été incendiés entre Ségou et la capitale malienne pendant le week-end. Des infrastructures électriques liées à l'important barrage de Manantali dans la région de Kayes ont été détruites. L'armée malienne poursuit quant à elle ses opérations. Des centaines de camions citernes ont pu entrer à Bamako. Dans la région de Kidal, c'est le statu quo, alors que de nouveaux combats semblent inévitables.
L'invité.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé sur plusieurs sujets politiques majeurs, notamment la question d'un possible troisième mandat et la fin de la guerre comme condition pour la tenue des prochaines élections. C'était mercredi 6 mai 2026 à Kinshasa, lors d'une conférence de presse organisée en marge de la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette prise de position du chef de l'État était au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais du lundi. On les écoute au micro de Guy Maté Tsongo.
Taylor Lubanga, vous êtes professeur, vous êtes député national et chargé des missions du chef de l'État. Vous êtes également cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai, a déclaré le chef de l'État Félix Tshisekedi. Comment, professeur, comment vous comprenez cette prise de position du chef de l'État sur un éventuel troisième mandat?
En effet, il faut noter que le président est un serviteur du peuple. Et de ce point de vue, il a le devoir de présenter le bilan au peuple à mi-parcours, mais encore lorsque les questions occupent les salons politiques, le président doit pouvoir donner sa position sur les questions qui, aujourd'hui, inondent les débats politiques. Je ne comprends pas pourquoi les opposants s'agitent sur une communication tout aussi claire et responsable. Lorsque le président dit « je ne peux rien accepter des débats que j'entends, pour moi, tout ce qui peut être fait, et donc les réformes envisagées destinées à améliorer la qualité de la gouvernabilité du pays, ne peut être possible avec l'accord du peuple par voie référendaire. » Où est le mal? Le président de la République reconnaît les limites de ses mandats. Et vous dit être prêt à quitter le pouvoir, les laissant sur le bon rail. Mais respectueux de la volonté, soucieux de pouvoir, bien entendu, écouter le peuple qui dit, si la population me demande de revenir, je ne m'opposerai pas.
Merci, Emile Assani. Vous êtes député national de l'île de Kindu sur la liste LGD, parti de l'opposition, dont Matata Ponyo est le leader. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comment vous réagissez à cette position du chef de l'État, selon laquelle il n'a pas sollicité un troisième mandat, mais que si cela est souhaité par les peuples, il l'accepterait?
Le chef a repris les slogans et il s'est prononcé cette fois-ci de façon ouverte pour dire qu'il n'est pas demandeur d'un troisième mandat, mais si jamais le peuple lui demandait de briguer un troisième mandat, il ne tardera pas à sauter sur l'occasion. Alors, quand je dis « ne sont pas venus même réduits », je crois que vous avez suivi à l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi. Et cette proposition de loi, il dit « proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo ». En réalité, M. Guy Maté, lorsque vous parcourez cette proposition de loi, vous comprendrez qu'il est question du changement de la Constitution. Parce que ils ont compris avec les mécanismes de révision de la Constitution, il n'y aura pas possibilité au chef pour briguer un troisième mandat. Vous lisez la Constitution à partir de l'article 1 jusqu'au dernier article 229, nulle part on ne donne à la population ou au peuple la possibilité de proposer au chef de l'État un troisième mandat.
Merci. Alidor Tshibanda, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Quelle est votre lecture de la déclaration du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sujet d'un possible troisième mandat?
Bon, il a dit, si le peuple le veut, lui est disposé à répondre à la faveur du peuple. Ça voudrait autrement dire quoi? Le président voudrait bien, hein, je ne dis pas, je ne suis pas trop dans ses intentions, mais à la lecture de ses propos, il voudrait bien se soumettre à la volonté du peuple, d'après ce qu'il dit. Mais cette volonté, telle qu'organisée, consacrée dans la Constitution, présente assez des limites, comme venait de le dire l'avocat en face. Le référendum dont il est question ne peut pas ni être législatif, ni être constitutionnel. Il faut lever une option politique claire.
Cette option voudrait quoi?
Une option qui dit...
On met de côté la Constitution.
On met de côté la Constitution et on adopte une nouvelle Constitution. C'est une option politique. Soumettre le troisième mandat dans le cadre de cette Constitution à la pétition ou référendum, c'est un discours politique. Je crois que ça n'a pas de place. Ce qu'il faudrait, moi, si j'étais conseiller au niveau de la majorité au pouvoir actuel, je demanderai qu'on lève l'option.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal parlé du matin, coordonné et supervisé par Lévin Mbouinga-Vobou et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.